J'aimerais parler ce matin sur Ésaü et Jacob, dans Genèse chapitre 25, donc au verset 19. « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. » Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle allait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'ils naquirent. Amen. J'aimerais poursuivre donc sur le thème de la chair contre l'esprit que nous voyons dans toute la parole de Dieu. Nous avons parlé de Caïn et Abel qui se sont opposés. Nous avons parlé de Lot et Abraham. Et ici, ce thème d'opposition, de contradiction entre la vie charnelle et la vie spirituelle vont à nouveau se confronter avec Ésaü et Jacob. Il y a une parole de Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, 56, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Il y a un enseignement qui nous montre dans l'Écriture que le premier, souvent, c'est le charnel, mais ce qui vient en second, c'est le spirituel. Et c'est vrai encore pour Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le charnel. L'homme attaché aux choses de la terre, et Jacob, ça va être le spirituel, l'homme attaché aux choses de Dieu. Et c'est vrai aussi dans notre vie, parce que nous pouvons commencer par la chair, mais nous devons arriver à vivre par l'esprit. Alors le premier point, c'est au verset 21, c'est d'abord deux enfants du miracle, Ésaü et Jacob. Parce que Isaac, donc le père, s'est marié avec Rebecca, nous croyons que c'était le plan de Dieu. Quand on lit le récit de la Genèse, c'est Éliézer qui va être envoyé donc pour chercher une femme pour Isaac. Et il a eu des signes de Dieu, il a eu la faveur de Dieu, il a trouvé la bonne personne et il l'a ramenée auprès d'Isaac. Donc tout se passe bien, on peut dire que tout se passe bien. Il a 40 ans, il est marié. Et maintenant, ils sont éprouvés dans leur couple parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et quelquefois, les couples sont éprouvés dans les familles. Et quelquefois, la maladie vient frapper dans un couple et vient éprouver une famille. C'est ce qui est arrivé pour la situation de Isaac et sa femme Rebecca. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir chercher la face de Dieu, prier, tenir bon dans l'épreuve. C'est difficile quand le rapport médical est mauvais, quand le médecin dit à Rebecca, « Bien, voilà, vous êtes stérile, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. » Et vous avez tous les diagnostics, tous les rapports médicaux qui vont dans le même sens. Vous n'avez pas d'encouragement. Mais nous connaissons un autre rapport qui est celui de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Psaume 113, verset 9. « Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit notre médecin. Parce que Dieu, c'est notre médecin. Et il a écrit la prescription. Alors, c'est vrai, quand on va chez le médecin qui nous donne à prendre tel ou tel médicament, alors on va à la pharmacie, on achète et on suit scrupuleusement les indications que le médecin nous a indiquées parce qu'on croit qu'il est qualifié et qu'il sait les meilleurs moyens de nous soigner. Mais sur le plan spirituel, nous avons aussi un médecin, c'est Dieu, parce que c'est le médecin des âmes et des corps. Et lui, il nous a envoyé la prescription. La prescription, c'est sa parole. Et il ne nous reste plus qu'à la lire, à la connaître, savoir qu'est-ce qu'il nous enseigne, et ensuite à la mettre en pratique dans la foi, scrupuleusement, parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, implorer l'Éternel, c'est exactement ce que Isaac va faire, voyez, au verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Il y a deux façons de réagir. Soit on dit, bon, ben, de toute façon, elle ne pourra pas avoir d'enfant, donc ce n'est pas la peine d'espérer, ce n'est pas la peine. Mais si Dieu le permet dans sa grâce, si c'est sa volonté, et qu'il y a une possibilité d'avoir des enfants, alors il s'attend à Dieu et il va prier. De toute façon, il n'y avait pas d'autres possibilités à l'époque, il ne pouvait pas en être autrement, il fallait un miracle, une intervention de Dieu. Alors, il a imploré l'Éternel. Implorer, ça veut dire demander en suppliant avec instance. Est-ce que nous aussi, nous persévérons dans la prière? Vous savez combien de temps a prié Isaac? Est-ce qu'il a prié un an? 2 ans? Plus que 2 ans? Plus que 10 ans? 20 ans il a prié. 20 ans, parce qu'à la fin, on a lu que c'était à 60 ans que naquirent les 2 bébés. Donc, pendant 20 ans, il s'attendait à la grâce de Dieu. Quel exemple de persévérance. Parfois, on prie 1 mois, on a l'impression déjà qu'on n'en peut plus. Mais prier dans la durée, s'attendre à la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que nous, on voit ça dans... On le lit, ça prend combien? Ça prend 1 minute 30. Mais en réalité, on ne voit pas que les années ont passé. Depuis le moment où il a imploré l'Éternel, jusqu'au moment où l'exaucement arrive, il y a quand même 20 ans qui se sont écoulés, c'est pas rien. Et ça, ça nous parle de la durée du temps, mais le temps appartient à Dieu, frères et sœurs. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien être exaucés. Sitôt qu'on a fini la prière, on dit Amen, on ouvre les yeux et ça y est. Mais ça, c'est, entre guillemets, ça c'est magique. Mais c'est pas dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. La parole de Dieu, c'est on prie, on dit Amen. Tout ce qu'on voit nous montre le contraire de ce qu'on attend, mais dans notre cœur, nous croyons que Dieu va l'accomplir en son temps et nous restons confiants et nous continuons dans la foi. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, l'Éternel va exaucer dans un deuxième temps, ça, c'est la part de Dieu. Notre part, c'est celle d'Isaac, c'est de supplier, d'implorer l'Éternel, de nous attendre à la grâce de Dieu, mais nous sommes conscients que c'est en son temps. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu de dire, voilà, il faut qu'avant minuit... ou avant 19h, ça soit réglé, non. Il y a une dimension qui nous échappe, et ça, c'est la part de Dieu, maintenant, c'est le miracle. Le miracle, c'est Dieu qui le fait quand il veut, comme il veut, à la manière qu'il veut. Alors, effectivement, la persévérance, la confiance, ce sont des caractéristiques des enfants de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce texte, parce que quand Dieu exauce, il envoie la pleine bénédiction, vous voyez. Dieu aurait pu lui donner un enfant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 2 enfants. Et ça, ça nous montre que Dieu, il nous donne avec abondance. C'est vrai que quelquefois, on va lutter, on va combattre pendant des mois, des années, mais quand la bénédiction arrive, frères et sœurs, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Et là, on pourrait dire que c'est une double bénédiction. 2 enfants d'un seul coup. Quelle grâce! Il y a quelques années, un couple me demandait de prier parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, on est allé prier, gloire à Dieu. 9 mois après, l'enfant est arrivé. Et quelques temps après, il me rappelle, il me dit, « Pasteur, vous pouvez venir prier parce qu'on n'arrive plus à dormir maintenant à cause du bébé. » J'ai dit, « Merci Seigneur. » C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Le bébé est là, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Et imaginez qu'il y en a 2 qui arrivent d'un coup. Hein. Gloire à Dieu. Alors ça fait 2 fois plus d'inconvénients. Mais en même temps, les enfants, c'est les enfants de la promesse. La Bible dit que c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors voilà, frères et sœurs, je vous encourage, si vous avez encore le projet d'avoir des enfants, gloire à Dieu, parce que c'est une bénédiction pour les familles et pour l'Église. Et on se réjouit de voir ces enfants au milieu de nous. Au verset 22, les enfants se heurtaient dans le sein de Rebecca. C'est le deuxième élément que je vois dans ce texte, c'est qu'il y a un conflit. Vous voyez, les enfants ne sont pas encore nés, que déjà, ils se battent. C'est écrit comme ça dans la version français courant. Les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Mais frères et sœurs, ça, ce n'est pas naturel, c'est spirituel, il faut le comprendre. C'est qu'il y a ici, déjà, une image du combat entre la chair et l'esprit. Paul dit dans Galates 5, 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a un combat. Ils luttent. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Alors, on voit ici, dans le ventre de Rebecca, il y a ce conflit qui n'est pas simplement naturel, mais qui est spirituel. Il y a la chair contre l'esprit qui sont en train de se battre. Et en réalité, par la suite, ça fera deux peuples, puisqu'Ésaü, c'est l'ancêtre d'Édom, c'est-à-dire les Édomites, qui seront d'ailleurs un peuple qui seront en guerre avec Israël. Et puis le deuxième enfant, qui sera Jacob, on sait que c'est le père d'Israël, donc de la nation, il sera appelé d'ailleurs Israël par la suite, ce sera le père de la nation d'Israël, et donc ils vont être en guerre contre les Édomites dans la suite des temps. Cela montre qu'il y aura ce conflit qui va se perpétuer dans l'avenir. Et puis il y a une prophétie qui est donnée par l'Éternel à Rebecca. Il lui dit, le plus grand, c'est Édom ou Ésaü, le plus grand ou la chair, sera vaincu par le plus petit. Et le plus petit, c'est Israël, c'est-à-dire Jacob. C'est l'esprit. Et c'est ainsi que la chair va être vaincue par l'esprit. Et c'est comme ça que ça va avancer dans notre vie chrétienne. Voyez quand Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul met les choses dans le bon ordre. Parce que Paul ne dit pas « Efforcez-vous de ne pas accomplir les désirs de la chair pour pouvoir marcher par l'esprit. » Mais il dit, c'est l'inverse, c'est par l'esprit, c'est en marchant selon l'esprit que vous allez triompher des désirs de la chair. Et si nous nous efforçons, nous, par nos forces, on va dire, par nos méthodes humaines, de canaliser la chair, vous savez que la chair, elle est indomptable, elle n'est pas gérable. Mais si nous marchons par l'Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous allez voir que la chair va être vaincue, elle va être tenaillée, elle va être assujettie. C'est le terme qu'utilise Paul dans 1 Corinthiens 9, 27. « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Littéralement, je le tiens en esclavage. Mais comment est-ce que c'est possible? Parce que Paul marche dans l'Esprit. Pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et renouvelés dans le Saint-Esprit? Et c'est ainsi que nous triomphons de la chair. Au verset 24, c'est le troisième point, on voit que ce sont des jumeaux qui sont donc dans le sein de Rebecca. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux. Ces deux jumeaux sont à la fois... Ben, ils ont des similitudes parce qu'ils sont du même père, de la même mère, de la même famille spirituelle, mais en même temps, ils sont très différents. Ésaü, par exemple, est né velu. La Bible dit qu'en grandissant, il est devenu chasseur. Donc, toujours à l'extérieur, toujours à aller chercher du gibier, à être en quête de quelques nouvelles aventures. Et puis... Il savait faire la nourriture, puisqu'on voit qu'il va préparer un plat pour son père. Tandis que Jacob, lui, signifie talon, le supplanteur, c'est-à-dire celui qui attrape par le talon, ce qui signifie quelqu'un qui trompe. La Bible dit que par la suite, c'était un homme tranquille, ou une autre traduction dit d'un caractère paisible. Il habitait sous les tentes, et lui, c'était le préféré de Rebecca, sa mère. Tandis que Ésaü, c'était le préféré d'Isaac, son père, probablement à cause de la nourriture. Les deux jumeaux sont donc élevés dans le même foyer, avec le même enseignement spirituel. On pourrait dire qu'ils sont croyants tous les deux. Ils ont bénéficié des mêmes grâces. Mais l'un va être définitivement attaché aux choses de la terre, c'est Ésaü. On va le voir constamment revenir aux choses terrestres. Tandis que l'autre, il n'est pas parfait, il a beaucoup de failles dans sa vie, c'est Jacob. On sait que il a fait des erreurs, mais en même temps, il a quelque chose en lui qui l'attache aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Et fondamentalement, il va vivre dans la bénédiction de Dieu. Il va rechercher à plaire à Dieu. Le quatrième point, c'est au verset 29, c'est l'histoire du droit d'aînesse. Lorsque on a dit qu'Ésaü allait souvent dans les champs, et un jour qu'il revient des champs, il est fatigué et il n'a pas trouvé de gibier ce jour-là. Et il voit donc Jacob qui est près du feu et qui a fait un bon potage de lentilles, un bon potage. Et lorsqu'il sent l'odeur des lentilles, il s'approche et il dit « Mais donne-moi de ce potage ». Et là, Jacob lui fait un marché, une proposition. « Je te le vends, je te vends ce plat de lentilles contre le droit d'aînesse. » Mais le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui a de la valeur. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est là où on voit qu'Ésaü n'a pas la notion spirituelle des choses. Ésaü lui dit, mais à quoi me sert le droit d'aînesse? Il le méprise, il considère que ça n'a pas de valeur. Voyez, il dit par exemple au verset 31, ben, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Ça ne sert à rien. Je vais mourir, d'abord... ce droit, Isaac l'a eu, il va mourir, moi je vais mourir. Enfin, pour lui, la vie, vous voyez, ça n'a pas trop de sens, quoi. Il est là, mais il vit aujourd'hui, mangeons et buvons, et puis demain nous mourrons. Il n'a pas la perception que sa vie a un sens, qu'il a hérité spirituellement de ses parents. Il a le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Ça signifie d'abord la double portion de l'héritage. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, le premier-né avait une double portion. Et puis non seulement cela, mais c'était spirituel. C'était un titre de chef de famille, c'est-à-dire qu'il devenait le successeur de son père. On sait que son père avait reçu les promesses, donc Ésaü rentrait dans la bénédiction des promesses, et c'était lui qui allait transmettre le flambeau. Et puis il devenait sacrificateur pour sa maison. Il avait donc un rôle spirituel, un rôle important. Et lui, il préfère manger un bon plat de lentilles plutôt que d'être attaché aux choses que Dieu donne. Ça, c'est un problème. Il va mépriser son droit d'aînesse pour une satisfaction immédiate. Il n'en voit pas l'utilité et il va donner sa parole. Alors attention, jure-le-moi d'abord, dit. Parce qu'une parole donnée à l'époque, c'est comme aujourd'hui quand vous signez un contrat. Il avait signé un contrat en disant « Je te vends mon droit d'aînesse, mais qui a une valeur très importante contre un simple plat de lentilles. » Tout ça parce qu'il avait faim. Vous voyez, l'appétit de la chair, l'appétit terrestre. Voilà ce qu'il veut avoir. On peut dire que Jacob a acheté le droit d'aînesse. C'est vrai qu'il a fait une bonne affaire, dans un sens. Il l'a acheté pour pas cher. Il a acheté quelque chose d'une grande valeur pour pas cher. Mais c'était à Ésaü de réfléchir et de dire « Non, je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. » Ça, c'est lui qui a fait la faute. Parce qu'il y avait aussi une promesse sur la vie de Jacob, qu'il ne faut pas oublier, le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, sera assujetti au plus petit. Il y avait quelque chose qui était promis pour le plus petit, pour Jacob, et lui, Jacob, il s'en est souvenu, et il s'attendait à Dieu pour que la chose se fasse. Alors, on arrive au cinquième point, c'est la bénédiction paternelle dans Genèse chapitre 27. Lorsque Isaac, sans sa mort, approchait, il va convoquer son fils, le premier-né, bien sûr, Ésaü, pour justement lui transmettre la bénédiction paternelle, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Parce que Isaac, il n'était pas au courant de ce qui s'était passé entre les deux enfants. Alors, il lui demande de venir à lui, d'aller dans les champs chercher du gibier, et puis de lui faire un bon dîner. Et après, il lui donnera la bénédiction paternelle. Sauf que Rebecca était là et elle entend son mari dire ça à Ésaü. Et à ce moment-là, elle appelle Jacob et lui dit « Bon, tu vas préparer un bon plat avec deux chevreaux, tu vas les faire cuire, on va les préparer et on va l'apporter à ton père et il va te donner à toi la bénédiction et non pas à Ésaü. » C'est exactement ce qui va se passer. Avec une petite astuce, c'est que du fait que Isaac n'y voit plus très bien, il ne voit plus. Elle a mis les habits d'Ésaü sur Jacob, et puis elle a couvert ses mains et son cou de peau pour faire croire qu'il était velu comme son frère. Par ce subterfuge, donc, eh bien, c'est Jacob qui va au-devant de son père, se faisant passer pour Ésaü. Alors, effectivement, Isaac reconnaît bien la voix. Il dit c'est la voix de Jacob, mais il sent l'odeur du vêtement, il touche les mains, le cou, mais c'est bien Ésaü. Alors, il va donner la bénédiction, c'est au verset 28. Genèse chapitre 27, verset 28. L'Éternel va lui donner toute bénédiction, il va pourvoir à tous ses besoins, il va lui donner la victoire sur ses ennemis, la prééminence sur les membres de sa famille, et il va hériter ainsi la grande bénédiction d'Abraham, ça va être par Jacob. Et lorsque Ésaü, lui, revient des champs avec son gibier, et il le prépare, et il arrive vers son père pour obtenir la bénédiction, mais quelqu'un est déjà passé avant lui. Et là, il est coincé. Et Isaac aussi se rend compte qu'il a béni, non pas Ésaü, mais Jacob. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. Et là, on voit une scène tragique. C'est que cet Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse, celui qui a considéré les choses spirituelles comme un rien, quelque temps auparavant qu'il l'a vendu, eh bien maintenant que son père va mourir, il les veut les bénédictions. Mais c'est trop tard. Il a déjà fait son erreur. Il a déjà vendu. Maintenant, il peut pleurer. La Bible dit, il élève la voix, il pleure, il gémit auprès de son père. N'as-tu pas encore une bénédiction pour moi ? Eh non. Il ne fallait pas mépriser les choses de Dieu. Il ne fallait pas mettre de côté ce qui est bon, ce qui est spirituel. Tu as fait ton choix, et bien maintenant tu vas avoir les conséquences. Et la seule parole qu'il peut avoir, bien, ça va être, tu vas être privé des richesses spirituelles, tu vas vivre par l'épée, tu vas avoir une vie de souffrance. Il n'a pas de bénédiction à donner pour Ésaü. Mais regardez le texte du Nouveau Testament qui nous éclaire bien sur cette situation. C'est que Ésaü subit son propre mauvais choix. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, parce que le Nouveau Testament reprend ce récit avec quelques précisions. Il dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » La Bible nous dit ici qu'il s'est comporté comme un profane, c'est-à-dire comme un païen. Il était croyant, mais il s'est comporté comme un païen, et cela a attiré sur lui la malédiction. Il n'a pas vécu véritablement dans l'abondance. Il a essayé au dernier moment que les choses changent, mais c'était trop tard. Il y a parfois des situations dans lesquelles nous sommes trop engagés, et maintenant c'est trop tard. Il faut véritablement se repentir, demander pardon et s'attendre à la grâce de Dieu. Mais en tout cas, pour lui, il n'y a pas eu possibilité de retour en arrière. Jacob, bien sûr, a dû fuir, parce que lorsqu'Ésaü s'est rendu compte de la supercherie, il a voulu tuer son frère. Là encore, on voit sa violence, sa haine, son amertume. Et puis, il a dû fuir loin de son père. Il est allé chez Laban. Et malgré qu'il ait allé loin de la famille paternelle, en fait, la bénédiction de Dieu l'a accompagné dans ses déboires, tandis que l'autre, il a continué d'échec en échec, il a continué à vivre éloigné de Dieu. Il nous faut apprendre à rester fidèle à Dieu et la bénédiction nous accompagnera. On a exactement la même histoire avec Joseph. Lorsqu'il est vendu par ses frères, vendu comme esclave, on peut dire que vraiment ça va mal. Il est racheté par Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe chez Potiphar ? La bénédiction de l'Éternel accompagnait Joseph et faisait fructifier entre ses mains tout ce que Potiphar mettait devant lui. Pourquoi ? Parce que Dieu est dans notre cœur et Dieu nous accompagne. Parce que si nous sommes justes, si nous sommes droits, si nous faisons sa volonté, alors la bénédiction, on pourrait être même en prison, la bénédiction de Dieu nous accompagne en tout lieu. Je lisais une petite anecdote qui est arrivée dans le siècle, il y a deux siècles en fait, quand les navigateurs allaient sur le Pacifique Et il y a un navigateur qui s'est arrêté sur une île du Pacifique où il y avait des indigènes, qu'il a fait monter, deux chefs indigènes qu'il a fait monter à bord de son navire. Dans son navire, le navigateur avait des pommes. Et les indigènes de cette île n'avaient jamais goûté ce fruit. Alors ils ont tous les deux goûté ces pommes, ils ont trouvé ce fruit délicieux et ils en voulaient. Alors voilà, le navigateur leur a proposé ceci. Voilà, soit vous prenez un panier rempli de pommes, soit je vous laisse quelques petits pommiers. Mais il faudra attendre des années avant qu'elles produisent des pommes. Alors un des deux chefs a pris le panier de pommes et l'autre a choisi les petits pommiers. Et quelques années plus tard, le même navigateur est repassé au même endroit dans l'île et il a rencontré à nouveau ces deux chefs. Le premier avait mangé toutes ses pommes depuis longtemps, il n'y avait plus de panier, il n'y avait plus rien. Tandis que le second avait planté ses petits pommiers qui étaient devenus assez grands, qui avaient pu produire des pommes et même ce chef-là a pu donner à manger des pommes au navigateur. C'est l'image de deux gestions différentes. Le premier qui poursuit les bénédictions de Dieu sans chercher sa présence. Le deuxième qui cherche la présence de Dieu plus que les bénédictions. Et c'est cela la différence entre Ésaü et Jacob. L'un, il veut que l'intérêt. L'autre, il cherche Dieu. Et frères et sœurs, nous, ce que nous devons faire, c'est chercher Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Mais si nous ne le faisons pas, si nous cherchons la guérison, nous cherchons le bien-être, nous cherchons le confort, nous cherchons le finance, nous cherchons en fait les bénédictions, mais on deviendra comme Ésaü et on sera toujours malheureux. Mais par contre, si nous cherchons Dieu, si nous cherchons sa présence, eh bien nous savons que les choses se feront, que les choses arriveront peut-être pas comme on pense ou comme on veut, parce que ça appartient à Dieu, mais en tout cas c'est la bonne direction. Le sixième point, c'est la haine que va développer Ésaü contre son frère Jacob. C'est au verset 41 du chapitre 27. Au Genèse 27, 41 dit « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Et nous voyons qu'ici, il y a une opposition fondamentale entre celui qui marche par la chair et celui qui marche par l'esprit. Celui qui a de la haine, qui conçoit le meurtre, qui dit dans son cœur « je le tuerai, je me vengerai, je saisirai l'occasion », on voit bien qu'il est dominé par des mauvaises pensées, qu'il ne se repent pas de ses péchés, qu'il ne veut pas demander pardon pour la situation. On voit bien qu'il est en train de nourrir de l'amertume. Je me suis rendu compte ces derniers jours combien l'amertume peut détruire une famille. Vous avez tous été certainement au courant de cette famille qui a été décimée, le père, la mère, les deux enfants. Tout le monde s'interrogeait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disparaissent? Et récemment, ils se sont rendus compte que c'était pour de l'or, un trésor qui était caché là dans le garage, pour de l'or, qui avait été volé par le père de famille. Quelque chose d'incroyable. C'est comme si cet or a attiré la malédiction sur toute cette famille. Et si on avait pu prévenir cet homme en lui disant « Mais cet or que vous prenez, ça va attirer la mort sur vous et sur vos enfants. Ne le prenez pas. » S'il avait pu savoir ces choses-là, il n'aurait jamais touché. Il n'aurait jamais touché ces choses-là. Voyez, le péché, c'est comme ça, frères et sœurs. Le péché, c'est comme de l'or en apparence. Vous croyez que vous l'avez, que vous allez être heureux, parce qu'il disait « Avec tout cet or, je vais pouvoir vivre jusqu'à la retraite. » Je vais être heureux, je vais avoir le bien-être, le confort. Mais c'est ça le péché, c'est un mensonge. Vous croyez que vous avez le bonheur, vous croyez que vous avez des bonnes choses, mais en réalité ça attire sur vous une malédiction. Et la malédiction, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi nous avertissons les hommes, les femmes dans ce monde, repentez-vous, convertissez-vous, attachez-vous au Seigneur, parce que ça vaut plus que toutes les richesses de cette terre, que l'or, tout cela. C'est rien par rapport à la vie, par rapport à l'éternité. Et l'amertume qu'a développée Ésaü, eh bien, ça va être pour sa perte, ça va être pour sa mort. Si nous ne nous repentons pas, nous mourrons dans nos péchés. Tandis que le pardon apporte la guérison. Vous voyez, Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 11 et au verset 25, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ne retenez pas l'amertume. Ne retenez pas de rancœur, afin que votre Père qui est dans les cieux aussi vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, ça peut. Donc ça veut dire que Jésus dit, ça peut arriver. Vous voyez, des gens comme Ésaü. Ce sont des croyants qui sont foncièrement charnels. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences spirituelles sur nos choix. On a pris des décisions, on entretient des mauvaises pensées, on entretient de la vengeance, on entretient un mauvais état d'esprit ou on propage des propos mauvais. Mais tout cela, Dieu le voit, et on est en train d'accumuler sur nos vies des malédictions, des difficultés, et notre Père ne nous pardonne pas parce qu'on ne pardonne pas, parce qu'on est amer, parce qu'on est dur. Un cinquième point, c'est des choix de vie différents. Vous voyez, Ésaü, j'ai dit, lui, il aime la satisfaction immédiate et il ne va pas chercher la volonté de Dieu pour son mariage. Il va se marier avec une hittite, c'est-à-dire une femme qui fait partie du peuple ennemi du peuple de Dieu. C'est devenu un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Il voulait le conseiller, lui dit, mais marie-toi avec une femme du peuple d'Israël. Non, il a fait qu'à sa tête et même il est devenu polygame. Donc il a complètement dévié par rapport à ce que Dieu voulait pour lui. Là encore, c'est l'image de celui qui marche par la vue et non par la foi, qui est faible au niveau de la piété, qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, mais qui cherche ce qui l'arrange, ce qu'il a envie. Tandis que Jacob a été différent. Jacob a écouté les conseils de ses parents qui lui ont dit « Ne te marie pas avec une femme de ces pays ennemis du peuple de Dieu, de ces Cananéens. Tu ne prendras pas une femme parmi ces Cananéens, mais tu vas aller chez Laban et là-bas tu vas trouver une femme pour toi. » C'est-à-dire que Jacob a fait le choix d'obéir à Dieu, quitte à partir, et il est parti, et là-bas il a trouvé ce qu'il fallait, et là-bas ça a permis qu'il ait la naissance des 12 tribus, qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Je termine avec Genèse 33, verset 1er, la fin, lorsque Jacob donc est parti chez Laban. On voit quand même que la bénédiction l'a accompagné, comme je disais, malgré qu'il n'était pas parfait, parce qu'il avait aussi ses failles, mais j'ai remarqué qu'au travers de la vie de Jacob, il a progressé, de sorte que quand il revient, après ses 14 années passées chez Laban, alors il revient, et puis en Genèse chapitre 33, verset 1er, ils vont se retrouver. Ça fait 20 ans que Ésaü et Jacob ne se sont pas vus. Et Jacob était parti sur l'esprit, mon frère veut me tuer. Et quand il revient, il craint que son frère n'ait pas changé d'état d'esprit. Alors, il va mettre devant lui les femmes, les enfants, tout cela. Et puis, lorsque son frère arrive, il va au-devant de lui. Et au verset 4, donc Genèse chapitre 33, verset 4, il est dit que Ésaü courut à sa rencontre. Et comme il venait avec 400 hommes, à ce moment-là, Jacob a eu peur. Mais il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Le temps a fait mûrir Ésaü, de sorte qu'il a réussi à pardonner son frère. Et on voit que c'est une étape importante pour la réconciliation des deux frères. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement dans l'Écriture qui montre qu'on peut être un chrétien charnel, mais on peut aussi progresser et devenir spirituel. Et ne pas rester au stade de la légèreté, du minimum vital, mais d'aller plus loin et de commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça, ça va changer des choses dans la vie d'Ésaü qui fait qu'il va pouvoir pardonner à son frère et qu'il va pouvoir avancer dans la vie. Et je vois qu'à la mort d'Isaac, je vois Jacob et je vois Ésaü, ils sont là tous les deux pour enterrer leur père et ils ont vécu une réconciliation. Donc, en conclusion, il y a toujours ce conflit qui existe entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire entre le naturel et le spirituel. Et c'est normal que cela se passe ainsi. Ésaü a méprisé les choses de Dieu, le droit d'aînesse, les responsabilités spirituelles qui lui incombaient. Il l'a vu comme rien. Il en a subi les conséquences et il est passé à côté de bien des bénédictions dans sa vie. Tandis que Jacob, qui n'était pas parfait, mais qui avait véritablement la soif de Dieu dans son cœur, qui aimait le Seigneur par-dessus toute chose, eh bien, lui a vécu dans la bénédiction de Dieu.